16 et qui condamne ceux qui blasphémeraient le nom de l'Éternel. En prenant sur lui le nom de Fils de Dieu, selon les Juifs, il blasphémait en prenant sur lui le nom de l'Éternel. Donc, ce Dieu Fils de Dieu, se dire Fils de Dieu voulait dire s'identifier directement et de la manière la plus intime avec la personne même de Dieu. Si tel n'était pas le cas, ce chef d'accusation devenait absolument sans fondement. De retour à Caïphe, Caïphe pose la question, « Es-tu le Fils de Dieu ?» Jésus répond, « Tu l'as dit. » De plus, je vous déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. La réaction du souverain sacrificateur, il a blasphémé, et il déchire ses vêtements. Pourquoi donc cette réaction? Cette réaction est tout à fait sans fondement. Si Jésus ne venait pas de se déclarer Dieu et de s'attribuer comme il l'a fait en citant le psaume 110, des qualités et des rôles qui ne reviennent qu'à Dieu. Et Caïphe a très bien compris. Il était le mieux placé de son époque pour comprendre ce que Jésus était en train de dire. Donc le titre « Fils de Dieu » suffisait à lui seul pour attirer sur Jésus le désapprobre des Juifs. Et cela justement parce que le titre voulait dire qu'il était lui-même l'égal de Dieu. Et Jésus, sachant cela, n'a pas hésité, n'a jamais hésité à l'utiliser. Et les apôtres n'hésitaient pas à l'appliquer à lui. Jean dit, vers la fin de son évangile, chapitre 20, verset 31, « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. » Il aurait pu dire, « Afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, l'égal de Dieu. » Et cela n'aurait fait aucune différence pour la compréhension du Juif qui lisait ce récit ou qui l'écoutait. Être fils de Dieu, être Dieu, c'était et c'est la même chose. Ce qui est créé ne partage pas, ne participe pas à la nature du Créateur. Ce qui est engendré participe à l'essence même du Père. Ce qu'un homme crée n'est pas homme, mais ce qu'un homme engendre, c'est homme. Pareillement, ce que Dieu crée n'est pas Dieu, mais ce que Dieu engendre est Dieu. Et Jésus-Christ, la Bible dit, est engendré de Dieu. Nous passons maintenant, en quittant le témoignage de Jésus sur lui-même et la réaction des Juifs, maintenant aux autres évangiles et ensuite aux épîtres pour y trouver des passages qui pourraient être soulignés dans ce contexte que nous regardons ce soir. Dans Matthieu 16, les versets 15 et 16, comme réponse à la question de Jésus-Christ, « Qui dites-vous que je suis ?» Vous voyez là encore, « Qui dites-vous que je suis ? Quelle est mon identité ?» Pierre répond, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Je vous rappelle qu'en vue de ce que nous venons de noter, Pierre est ici en train d'annoncer sa conviction que Jésus-Christ est divin. Et vous savez que Jésus l'a béni pour avoir reconnu la divinité niée par les chefs du peuple. Dans l'évangile de Luc, Gabriel annonce, avant la naissance de Jésus, que cet enfant sera appelé le Fils du Très-Haut. Et à l'âge de 12 ans, lorsqu'il se trouve dans le temple en train de s'entretenir avec les docteurs de la loi, il dit à ses parents qu'ils l'ont cherché pendant 3 jours, qu'il doit s'occuper des affaires de son père. « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Il y a 2 choses à noter ici. Tout d'abord, sa conscience, déjà à l'âge de 12 ans, d'être fils de Dieu, fils de l'Éternel. Deuxième chose, le fait qu'il appelle Dieu « mon père ». Mon Père, jamais, je répète, jamais Jésus ne se met au même niveau des autres Juifs pour dire que Dieu est notre Père. C'était toujours ou mon Père ou votre Père. Le « notre Père » auquel vous pensez peut-être, il l'a donné à ses disciples et c'était pour eux. Quand vous priez, dites. Mais lui-même faisait toujours la différence entre mon Père et votre Père, évidemment pour montrer sa relation spéciale et unique avec le Père Céleste. Nous arrivons maintenant à Jean, chapitre 1, verset 1, un passage qui a suscité pas mal de controverses, mais je crois seulement parce que l'on n'a pas voulu accepter ce qui est évident dans le verset. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, littéralement, et Dieu était la parole. Alors que la très grande majorité de traductions mettent « et la parole était Dieu », celle des témoins, celle dite du Nouveau Monde, celle qui est en bas de l'écran maintenant, mais plutôt « et la parole était Dieu » des minuscules. Dans la version anglaise, on dit même « et la parole était un Dieu » des minuscules. Regardons d'abord la première partie du verset. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Les témoins disent que ce verset prouve que Jésus-Christ a eu un commencement. Mais regardez bien, au commencement étaient deux choses, je parle là des termes et non pas des identités. Au commencement étaient deux choses, Dieu et la parole. Ils étaient ensemble au commencement. Et si nous ne savions rien sur la Bible, nous ne pourrions dire qu'une chose, qu'à une époque appelée le commencement, deux choses existaient déjà. Dieu était là. Et la parole était là. Rien dans le verset n'indique que la parole aurait eu un commencement. Si c'était le cas, cela voudrait dire que Dieu aussi a eu un commencement. Car selon le verset, ils existaient ensemble à l'époque du commencement. Quant à la dernière phrase, si le monde nouveau s'est permis de traduire avec un D minuscule, on est en droit de savoir et de demander pourquoi. Et c'est ce qu'ont fait de nombreux témoins, sans pour autant recevoir une réponse très satisfaisante. Mais deux raisons sont offertes, l'une grammaticale et l'autre théologique. La raison grammaticale raccourcit un peu, et je vais vous demander de me suivre très soigneusement ici. La raison grammaticale, c'est que l'on traduit le mot théos, Dieu en grec, avec un D majuscule quand il est précédé de l'article O, et avec un D minuscule lorsque cet article est absent. Donc, si l'article est là, D majuscule, c'est le vrai Dieu. Quand l'article n'est pas là, D minuscule, un Dieu. Cette explication est donnée dans l'appendice de la traduction du Nouveau Monde, version anglaise de 1951, sur les pages 773 à 77. Et c'est la règle formelle des témoins sur ce point. Un regard sur un lexique ou une traduction interlinéaire quelconque du Nouveau Testament vous montrera que cette règle est arbitraire, tout à fait arbitraire, et qu'il y a beaucoup de versets dans le Nouveau Testament où le mot théos, n'ayant pourtant pas d'article, est traduit avec un D majuscule. Il y en a même quatre de ces versets dans ce même premier chapitre de Jean. Si le monde nouveau est sérieux, il va respecter cette règle. Nous allons voir si c'est le cas. Je n'ai pas mis devant nous la traduction des témoins sur ce point, c'est toujours la traduction second, mais sur les mots soulignés, les mots Dieu dans les versets 6 et 12 et 13, la version des témoins met la même chose, Dieu majuscule. Dans le verset 6, le mot théos se trouve sans article. Donc selon la règle établie par les témoins, ils devraient traduire avec un D minuscule, mais ils traduisent avec un D majuscule comme il est fait ici. Dans le verset 12, le nom de Dieu est sans article, mais traduit avec un majuscule. Dans le verset 13 et encore dans le 18 que vous ne voyez pas, le mot Dieu est traduit avec un majuscule. Pourtant, il n'y a pas d'article. On est forcé de conclure que les témoins ne suivent pas leurs propres règles et que cette règle n'est suscitée que pour se débarrasser d'une situation fâcheuse dans leur traduction. Ce qui nous amène à la raison théologique, offerte dans le même appendice noté tout à l'heure. Et voici ce qu'on dit. Dire que l'on devrait traduire « et la parole était Dieu » des majuscules est prétentieux. Cela voudrait dire que la parole était le Dieu avec qui la parole était, ce qui n'est pas raisonnable, car comment la parole peut-elle être avec Dieu et en même temps être ce même Dieu? Voilà la vraie raison. La tour est en train de dire, en effet, qu'elle refuse d'accepter ce que l'esprit humain ne peut pas expliquer rationnellement. Alors qu'il y a pas mal de choses qui sont acceptées par les témoins qui ne sont pas explicables rationnellement. Ici, en tout cas, puisqu'elle ne peut pas comprendre, elle refuse. La base de leur traduction devient donc non pas l'autorité de l'Écriture, mais leur propre théologie concernant le Christ. Ce qui n'est pas seulement peu recommandable pour un traducteur, mais extrêmement dangereux pour ne pas dire malhonnête, vu les conséquences possibles. Il y a d'autres problèmes aussi avec cette traduction. Si le Christ est Dieu ou un Dieu des minuscules, il y a donc au moins un Dieu inférieur au Dieu suprême. Alors que Dieu, le Père, l'Éternel, dit sans équivoque, « Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Or moi, il n'y a point de Dieu. » Isaïe 45, verset 5. Et encore Isaïe 32, 39, « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et il n'y a point de Dieu près de moi. » Il n'y a point de Dieu près de moi. Pourtant, ce passage que nous avons ici dit clairement que Jésus était Dieu et qu'il était auprès du Père, la parole étant avec Dieu, ce qui n'est pas possible s'il n'est pas lui aussi Dieu, puisque Dieu dit qu'il n'y a pas de Dieu auprès de lui. Un autre problème, le verset 3 de ce chapitre indique que tout ce qui a été créé par la parole, Jésus-Christ. Le passage dit bien qu'en dehors de lui, pas même une seule chose ne vint à l'existence. C'est important, ça. En dehors de lui, c'est la traduction des témoins que nous avons devant nous. En dehors de lui, pas même une seule chose ne vint à l'existence. Si cela est vrai, et si le Christ est un Dieu qui a été créé, comme dit le témoin, le Christ se trouve dans la curieuse position de s'être créé lui-même. Il faut réfléchir là-dessus. Nous reviendrons à cette idée du Créateur dans quelques minutes. Avec cela, nous laissons Jean chapitre 1, verset 1, et nous arrivons à Jean 12, 41, où l'apôtre se réfère à la vision d'Ésaïe dans le sixième chapitre de la prophétie d'Ésaïe. Vous vous rappelez que dans cette prophétie, dans cette vision, Ésaïe avait vu l'Éternel assis sur son trône, placé à une très grande hauteur, etc. Et à la fin de sa vision, il a dit « Malheur à moi, car mes yeux ont vu l'Éternel. » Et Jean, dans le Nouveau Testament maintenant, après avoir fait référence à cette même vision, et il s'agit formellement de la même vision, dit qu'Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Si vous lisez le contexte autour de ce verset, vous verrez que Jean parle de la gloire de Jésus-Christ et celle de Jésus-Christ dans le contexte. Lorsque Jésus prie dans le 17e chapitre de Jean, il demande à Dieu de le glorifier, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût, verset 5. Or nous avons déjà vu qu'il n'y a personne auprès de Dieu. Jésus dit ici que j'avais une certaine gloire auprès du Père. Nous avons vu qu'il n'y a personne auprès de Dieu. Et en plus, Ésaïe dit encore, chapitre 42, verset 8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Si donc Jésus-Christ participait à la gloire de Dieu, avant sa venue sur la terre, une gloire que Dieu ne partage pas, il a dû y participer en tant que Dieu. Il n'y a pas d'autre explication. Nous arrivons maintenant au 20e chapitre de Jean, où nous trouvons l'affirmation peut-être la plus directe et la plus claire de tout le Nouveau Testament de la divinité du Christ, aussi bien par ce qui n'est pas dit que par ce qui est dit. Vous connaissez l'histoire. Jésus étant ressuscité se réunit avec ses apôtres, ses disciples, c'est-à-dire il apparaît au milieu d'eux. Et il leur montre ses mains et ses pieds, son corps meurtri. Mais il y en a un qui n'est pas là, c'est Thomas. Et Thomas, quand on lui parle de tout cela, dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » Il est assez exigeant, ce Thomas. La prochaine fois que Jésus apparaît à ses disciples, Thomas est présent. Jésus dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Dans la version, dans le récit de Luc, chapitre 24, Jésus dit, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. » Ce qui montre tout de suite et très clairement que, contrairement à ce qu'enseignent les témoins sur ce point, Jésus-Christ n'était pas ressuscité avec un corps spirituel, c'était un corps très physique, c'était son corps, le corps qu'il avait sur la croix, le corps qui avait été crucifié et enseveli, parce qu'il utilise ce même corps pour prouver à ses disciples que c'est bien lui. Mettez vos mains dans les marques des clous, touchez-moi, et sachez qu'un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Mais pour revenir à Thomas, quand il voit les preuves, le corps meurtri de Jésus-Christ devant lui, quand il touche, il est convaincu et il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Avant d'examiner cette déclaration, notons que dans tous les enseignements de Jésus-Christ, il indique clairement que l'adoration, dans le sens de vénération religieuse, ne doit s'adresser qu'à Dieu et à Dieu seul. Quand il est tenté par Satan, par exemple, il finit par dire, en citant la loi, il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu serviras lui seul » Matthieu 4, verset 10. Cet enseignement est souligné plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Quand Corneille se prosterne devant Pierre, venu pour lui annoncer l'Évangile, Pierre le relève en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un homme » chapitre 10 des Actes, verset 26. Et notez-le bien, lorsque par deux fois, pendant la vision de l'Apocalypse, l'apôtre Jean se prosterne pour adorer l'ange qui lui montre sa vision de l'Apocalypse, l'ange lui dit « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, adore Dieu. » Ainsi, même un ange du ciel n'a pas le droit à cette adoration. On ne doit adorer que Dieu et Dieu seul, ce qui veut dire que si Jésus n'était qu'un homme, il n'avait pas droit à cette adoration. S'il était même un ange du ciel, comme pensent les témoins, il n'avait pas droit à cette adoration. Seul Dieu peut accepter l'adoration de ses créatures. À cet égard, il est à noter que dans le premier chapitre de l'Épître aux Hébreux, Dieu commande à tous ses anges d'adorer Jésus-Christ. Il y a plusieurs exemples dans le Nouveau Testament de gens qui ont adoré Jésus. Un lépreux, Matthieu 8, Jaïrus, dont Jésus a ressuscité la fille, Matthieu 9, ses disciples après l'avoir vu marcher sur l'eau, Matthieu 14, la femme cananéenne, Matthieu 15, l'aveugle né que Jésus a guéri, Jean chapitre 9, les femmes après la résurrection de Jésus, Matthieu 28, ses disciples juste avant qu'il soit enlevé aux cieux, Matthieu 28, etc. Or, pas une seule fois, Jésus n'a dit à ces gens qu'il ne fallait pas faire cela. Souvenons-nous que même pour les témoins, Jésus fut un homme sans péché. S'il n'était pas Dieu et qu'il acceptait l'adoration qui ne revenait qu'à Dieu, il se rendait coupable de plusieurs péchés, y compris le mensonge, le blasphème, le faux témoignage, etc. Ce même Jésus qui avait dit très fermement « Tu adoreras Dieu seul » a accepté l'adoration. Qu'est-ce que cela nous indique? Évidemment, les témoins essayent d'atténuer ces exemples d'adoration que je vous ai donnés en mettant dans leur traduction que ces gens rendaient hommage à Jésus. Mais le grec dit bien que c'est de l'adoration qu'il s'agit et que Jésus a bien accepté cette adoration. Revenons donc maintenant à cette déclaration de Thomas. Même si l'on ne trouvait nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament une indication que l'on ait adoré Jésus, ce passage seul servirait à le montrer, car Thomas est bien en train d'adorer Jésus ici. Quelle est l'explication des témoins sur ce point? J'essaye toujours de voir le raisonnement des témoins sur tous ces points, mais ici la faiblesse du raisonnement ne fait que montrer plus ouvertement qu'ils sont évidemment très embarrassés par cette référence tellement claire à la divinité du Christ. Ils disent que si Thomas avait voulu dire que Jésus était le vrai Dieu, ce dernier, c'est-à-dire Jésus, l'aurait repris. Et puisque Jésus ne l'a pas repris, il a dû ne pas vouloir dire cela. Et pendant que vous vous étonnez de la duplicité de cette explication, je vous suggérerais qu'il y a encore une autre possibilité pourquoi Jésus ne l'a pas repris, et c'est parce qu'il disait la vérité. L'explication officielle des témoins sur cette déclaration montre à quel point ils sont prêts à aller pour essayer de nier ce qui est parfaitement clair et évident pour le lecteur objectif. Et je vous pose la question, qu'est-ce que l'expression veut dire s'il ne veut pas dire « mon Dieu » Comment peut-il vouloir dire autre chose que « mon Dieu » quand Thomas, regardant Jésus, disait « mon Seigneur et mon Dieu » Car pour Thomas, pour Jean qui a écrit ce récit, pour tous les Juifs, il n'y avait qu'un seul Dieu. À ce Dieu, donc, Thomas s'adressait. Il appelait Jésus-Christ ce Dieu, et Jésus l'acceptait. Et non seulement il l'acceptait, mais il a béni Thomas de l'avoir reconnu. Il dit à Thomas, après cette déclaration, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » En prononçant ces paroles, Jésus prouve, sans l'ombre d'un doute, la divinité que les témoins essayent de nier. Il n'y a qu'une seule façon de ne pas comprendre ce passage, et c'est d'avoir décidé, avant de le lire, que Jésus n'est pas divin, et de refuser d'accepter ce qui est écrit ici, en toutes lettres. Nous passons aux actes, au verset 28 du 20e chapitre, où l'apôtre Paul, dans une série de conseils aux anciens de l'église d'Éphèse, parle de l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. L'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je vous signale que cette cliché est faite sur la nouvelle version seconde révisée, dite Colombe, de 1978. Vous noterez l'impact de cette phrase vis-à-vis de ce que nous examinons ce soir. Or, le texte grec dit bien l'église de Dieu. Et ceci est soutenu par les anciens manuscrits les plus répétés et réputés, comme le Vaticanus, le Sinaiticanus, le Vulgate et le Syriaque, etc. Et les témoins acceptent cette traduction, l'Église de Dieu, bien qu'ils disent la congrégation de Dieu. L'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Or, qui a donné son sang? C'est le Christ. Et le sang du Christ, selon ce passage, c'est le sang de Dieu. Mais bien que les témoins acceptent le début de la phrase, l'Église de Dieu, congrégation de Dieu, ils atténuent la fin de la phrase en traduisant qu'il s'est acquise avec le sang de son propre fils, entre crochets le mot fils, qu'il s'est acquise avec le sang de son propre fils. Les témoins disent qu'ils sont les seuls, ou presque les seuls, à défendre le droit de la Bible de parler pour elle-même, mais si c'était le cas, ils laisseraient la Bible dire ce qu'elle a à dire sans le changer. Pourquoi, au juste, ont-ils eu besoin de faire leur propre traduction? Je pose la question. Dans le cas de ce verset, et dans le cas des autres versets que je vous ai montrés et que je vous montrerai, ils se sont sentis libres d'introduire dans le texte même des écritures, des interprétations, ça nous l'avons déjà vu, des falsifications et des traductions tendancieuses, ce que nul traducteur n'est en droit de faire, et que tout traducteur honnête doit dénoncer comme étant une pratique non conforme à l'objectivité nécessaire à une telle œuvre. Nous passons maintenant aux Épîtres. Romains chapitre 9, verset 5. Il est dit du Christ qu'il est Dieu béni éternellement. Cela est une bonne traduction selon le grec, mais le Monde Nouveau n'a évidemment pas pu traduire comme cela. Alors, on a intercalé entre le mot Dieu et le mot béni, le mot soit. Christ qui est au-dessus de toute chose, Dieu soit béni éternellement. Ce qui altère radicalement le sens du passage. Et je pose la question encore une fois, pourquoi ont-ils fait cela, si ce n'est pour nier l'enseignement pourtant clair du passage? 2 Corinthiens 5, verset 19, est un autre passage à considérer. Ici, l'apôtre dit tout simplement que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Les mots « Dieu était en Christ » sont une traduction littérale du grec « Theos en an Christo ». Mais à l'encontre du sens évident de ce passage, les témoins traduisent que Dieu, je cite là, « Dieu, par le moyen du Christ, réconciliait le monde avec lui-même. » Dieu, par le moyen du Christ, on est loin de Dieu, était en Christ. Vous voyez que le texte a ainsi subi une grave torsion à la main des témoins. Pourquoi ont-ils fait cela? Philippiens chapitre 2, versets 5 à 10, est un passage bien aimé de tout chrétien. Dans ce passage, L'apôtre nous montre la descente volontaire de Jésus-Christ des cieux où il existait en forme de Dieu, à la terre où il a subi la mort la plus terrible. Quand Paul dit dans le texte que Jésus existait en forme de Dieu, il veut dire tout simplement qu'il était Dieu. Que peut-il vouloir dire d'autre? Je pose la question. Qu'est-ce qui ou qui est-ce qui existe en forme de Dieu? Si ce n'est Dieu lui-même, rien et personne, évidemment. Par conséquent, la prochaine phrase que les témoins aiment à citer et qui est reconnue comme difficile à traduire et traduite plus ou moins comme vous la voyez, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Cette phrase doit absolument être comprise dans son contexte et doit vouloir dire que Jésus, qui existait déjà comme Dieu, ne s'y est pas accroché à sa divinité, mais s'est vidé pour devenir un homme. C'est d'ailleurs ce que le verset 7 dit comme explication. Qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, etc. Les témoins voudraient faire croire que le texte doit être traduit, que Jésus n'a pas songé à une usurpation. Que Jésus n'a pas songé à une usurpation, à savoir pour être égal avec Dieu. Ce qui ne peut pas logiquement être exact, ni dans le contexte de tous les autres passages que nous avons considérés, ni dans le contexte de ce même passage où la première phrase dit explicitement que Jésus existait déjà en forme de Dieu. Il n'est pas question ici d'usurpation. Le passage ne mentionne pas usurpation. D'ailleurs, on ne peut pas usurper ce que l'on possède déjà. Pourquoi les témoins ont-ils voulu changer le sens de ce texte? À ce propos, je crois le moment venu d'ouvrir une parenthèse et de considérer la position des témoins sur certaines déclarations de Jésus. Tel « Le Père est plus grand que moi » Jean 14, 28, ou « Le Fils ne peut rien faire de lui-même » Jean 5, 19, etc. J'ai attendu ce moment pour parler de ces choses parce que j'estime que les témoins ont justement mal compris cet aspect très important de l'apparition du Christ sur la terre qu'est son dépouillement. Pour venir dans ce monde, il fallait que le Christ laisse toute sa gloire derrière lui. Jean chapitre 7, verset 5. La mise au point ne marche pas. Il fallait que le Christ laisse toute sa gloire derrière lui et qu'il se vide complètement pour devenir un homme, pour prendre sur lui la chair et le sang d'un mortel. L'épistolier aux Hébreux nous dit que puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Hébreux 2, 14 et 15. Apprendre l'obéissance. Il nous est dit plus loin dans le 5e chapitre, verset 8, « Bien qu'il fût fils, il a dû apprendre l'obéissance. Il a dû se soumettre. » Rappelez-vous que c'est de Dieu qu'on parle, et il a fallu que Dieu apprenne à se soumettre. Or, les témoins ne semblent pas avoir saisi la différence entre soumission et infériorité. Quand le Christ a quitté sa gloire pour prendre la forme d'un homme, il s'est forcément limité à certains égards, et cela d'une façon tout à fait volontaire. Le passage de Philippiens chapitre 2 souligne ce fait. Mais en aucun cas, même s'il était soumis au Père en tant qu'homme sur la terre pour montrer la vraie soumission à Dieu et pour ainsi délivrer les hommes de leur servitude à la mort, en aucun cas n'est-il devenu inférieur au Père en divinité et en sainteté? Une femme doit être soumise à son mari. C'est là l'enseignement de la Bible. Est-elle pour autant inférieure à lui? Certainement pas. Leurs rôles sont peut-être différents, mais leurs personnes sont aussi valables l'une et l'autre devant Dieu. S'il y a quelque chose de clair et net dans l'histoire du Christ sur la terre, c'est que son chemin, il l'a choisi librement. Et il ne pouvait pas nous racheter sans emprunter ce chemin de la soumission. N'avait-il pas le droit et la puissance de refuser la mort et de descendre de la croix? N'a-t-il pas dit « Personne ne m'ôte ma vie. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Le secret de sa réussite et je dirais même la puissance de sa divinité se trouve en ceci, qu'il s'est soumis, non pas seulement à son Père, non pas seulement à ses disciples, mais aussi à ses ennemis, afin de les racheter de la mort. Et je suis convaincu que si les témoins comprenaient mieux cette soumission du Christ, ils comprendraient mieux les passages qui les troublent. Fin de parenthèse. Nous passons au passage de Colossiens chapitre 1, versets 15 à 18. Voilà. Où un effort flagrant a été fait par les témoins d'altérer le texte pourtant clair dans le but, et il n'y a pas d'autre moyen de le voir, dans le but d'insérer leur doctrine dans le texte même des Écritures. À partir du verset 15, Paul dit que le Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Comme vous pouvez vous en douter, c'est un passage clé pour les témoins qui pensent trouver ici une preuve que le Christ aurait été créé. Le tout est de savoir ce que veut dire l'expression « premier-né ». L'explication est donnée tout de suite, car dans le verset suivant, il est dit « car, dit-il », donc c'est une explication, « car c'est en lui qu'ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » C'est lui qui tient donc la prééminence en toute chose, et c'est là le sens du mot premier-né. C'est le mot prototokos en grec, et il veut dire premier-né, le plus haut, le privilégié, le chef, l'auteur. C'est dans ce sens qu'il est utilisé non pas seulement ici, mais dans tous les passages où on le trouve. Romains 8, 29, Colossiens 1, 18, ici un peu plus loin, Apocalypse 1, 5, Psaume 88, 9, 28, Jérémie 31, 9, Exode 4, 22. Si l'auteur avait voulu dire « premier créé », il aurait utilisé le terme « protoktistos », »,« premier créé », il y a un mot pour cela, mais il ne l'a pas utilisé. Il a dit « premier-né », qui veut dire « chef, auteur, le plus haut ». David, par ailleurs, David le roi d'Israël, est appelé le premier-né, bien qu'il n'était ni le premier roi d'Israël, ni l'aîné de sa famille. C'est qu'il avait la prééminence sur les autres. C'est là le vrai sens du mot. Cela est d'ailleurs clarifié au verset 18 de ce même passage, où le Christ est appelé le premier-né d'entre les morts. Or, le Christ a-t-il été le premier ressuscité d'entre les morts? Si nous allons appliquer la règle des témoins, il doit en être le premier. Mais nous savons qu'il n'a pas été le premier. Il tient entre ses mains la puissance de la résurrection et de la vie. Il est l'auteur de la vie, comme il a été l'auteur de la création. Paul souligne ici, comme Jean l'a fait dans son évangile, que tout ce qui a été créé par Jésus-Christ. Versets 16 et 17. Il est donc le créateur de toutes choses, le chef et l'auteur de la création. Il ne peut donc pas faire partie de cette création. Tout ce qui a été créé par lui. Cette vérité met les témoins devant la fâcheuse nécessité, pour soutenir leur doctrine, d'introduire dans le texte à pas moins de 4 reprises un mot, une phrase, qui ne se trouve pas du tout dans le grec et qui change tout.